prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, dans leur cœur, l'éternité, deuxième partie.
Bonjour à tout le monde. Nous allons ouvrir, le même livre que la semaine passée. Si vous vous souvenez, nous avions lu dans le livre de l'Ecclésiaste. Voilà. Alors, on va revenir à notre précédent thème. Et je vous propose cette lecture dans le chapitre 3. Quelques versets. Vous savez que nous avions intitulé notre message de notre dernier culte « Dans leur cœur, l'éternité ». Alors voilà, au cas où vous l'auriez oublié, je vous le rappelle. Et nous allons lire donc ce premier passage, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Et nous prolongerons avec un autre texte, toujours dans le même livre, un peu plus tard. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a du bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit, et jouit du bien-être au milieu de tout son travail. C'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Nous avions abordé le sujet précédemment en donnant deux visions de ce que pouvait être envisagée la vie. La vie vue, l'existence vue par un incroyant, un homme sans espérance, ou voire même un incrédule, et puis la vie, considérée par un homme de foi. Et l'auteur de ce fameux livre, prétendu auteur, il s'agit du grand roi Salomon, qui explore tout simplement le sens de la vie humaine. Vous savez, et je le rappelle, il était un peu l'exemple de l'idéal du bonheur humain, Salomon. Il a tout eu, il a tout essayé, il a tout goûté, puis malheureusement, il a tout perdu. Parce qu'il n'a pas su garder l'essentiel et le principal. Mais passons. Et Salomon nous dit que Dieu a laissé des signes et une semence dans le cœur de l'homme, où le cœur des hommes, c'est la pensée de l'éternité. Voilà. À travers tous les temps, tous les siècles, toutes les cultures, les sociétés, les civilisations, il y a quelque chose qui est la caractéristique du genre humain. C'est la pensée de l'éternité dans son cœur. Et je voudrais faire un rappel bref de ce que nous avions évoqué la semaine dernière. La première chose, trois points de vue des croyants. La première chose, c'est que sans Dieu, il ne peut y avoir de vraie et de durable satisfaction à vivre. Voilà, Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous le savez. Le deuxième point, un rappel. Toute existence humaine fait partie d'un plan. On n'est pas un accident dans un univers d'accidents. Je le rappelle, toute existence humaine fait partie d'un plan dont le temps, et entre autres le temps de notre vie, tient un rôle essentiel dans sa réalisation de ce plan, qui est avant tout un plan de Dieu, puisque Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Voilà. Et puis la troisième chose, Dieu a conçu un plan pour un but. Autrement, ça n'aurait pas de sens et d'intérêt. Un plan pour un but, lequel gouverne toute chose ici-bas. Et il appartient à l'homme de découvrir quel est le plan de Dieu pour atteindre ce but, qui est la réalisation de la pensée de l'éternité. Alors, à ce que nous avons dit il y a un instant, nous allons maintenant nous reporter dans un autre texte. Ceci dit, tournez quelques pages et allez à la fin de ce livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12 et écoutez bien parce que je crois que ça présente la réponse à toutes les questions que Salomon pouvait se poser et à nos questions aussi à nous. Voilà, Ecclésiaste chapitre 12 et nous allons lire quelques versets. Ça commence de cette manière, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Que Dieu nous bénisse ce matin. Et je voudrais vous dire que Dieu nous a encouragés à travers la prophétie que nous avons entendue, que la perle de grand prix est une réalité, frères et sœurs. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une chimère, mais c'est une réalité pour chaque homme et pour chaque femme. Alors écoutez la suite. L'homme est enfermé, malgré lui, dans une sorte de prison qui s'appelle le temps. Au fur et à mesure de ses années, il réalise parfois avec angoisse toute l'éphémérité de l'existence, de son existence, de sa vie. Derrière chacun, il y a un passé, à la hauteur de l'âge auquel nous sommes arrivés, naturellement. Devant lui, il y a son avenir et la période qu'il vit souvent le plus difficilement, c'est son présent. Parce que le présent, c'est notre réalité du moment. Et figurez-vous que l'homme est proposé, l'homme est dépeint, dévoilé comme un être tiraillé entre son vécu et ce qu'il va vivre. Nous avons certainement une histoire les uns et les autres. Elle est ce qu'elle est, cette histoire. Et puis, il y a ce qui nous attend naturellement. On pourrait dire que l'homme chemine entre deux lignes parallèles. Elle commence et elle finit. Elle se rejoignent au départ et elle se rejoint à l'arrivée. Donc, entre un départ et une arrivée. Et l'entre-deux s'appelle la vie. Avec naturellement eh bien, l'action qui est de vivre dans ce cadre. Et la question que Salomon se posait et qu'il nous pose ce matin, mais comment ? Comment vivre ? Comment appliquer nos jours ? Comment appliquer nos jours à la sagesse et de vivre le mieux possible ? Vous remarquerez que la Bible insiste beaucoup sur le présent de la vie humaine. Et très souvent, Jésus parle au présent. Et c'est un présent permanent avec le Christ. Puisque les messages d'hier, d'il y a 2000 ans, eh bien, nous interpellent encore aujourd'hui. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu derrière ce présent-là. Et de fait, notre passé ne nous appartient plus, qu'il ait été bon ou mauvais. Rien n'est à refaire dans ce passé, parce que maintenant c'est scellé, c'est figé. Notre avenir reste une énigme permanente. Que sera demain? Et tous les hommes qui sont venus sur cette planète se sont tous posés la même question. Et quand bien même qu'il y ait beaucoup d'espoir dans le futur, la réalité est souvent en désaccord avec nos plus beaux rêves d'hier. Parce qu'on en a rêvé des choses, hein. Waouh. On a rêvé forcément le meilleur. Et ça, c'est bien. C'est bien. Mais entre ce que nous avions médité d'avoir, d'obtenir, de vivre, et puis la réalité, il y a eu, c'est vrai, un grand décalage. Parfois, c'est le contraire qui se produit. Nous avons sous-estimé les capacités de Dieu de bénédiction, et nous avons eu plus. Nous, c'est ce qui nous arrive très souvent. Parce que nous mettons notre confiance non pas en nous-mêmes, mais dans celui qui est tout-puissant, dans celui qui détient tous les trésors dans le ciel et qui nous les donne à nous qui sommes sur la terre. Alors, les choses que nous obtenons pas rendent le cœur malade, on le sait, hein, et beaucoup de gens vivent cela, même des chrétiens, et celles que nous avons entendues dans ces choses, lorsqu'elles arrivent, eh bien, rentrent finalement dans le quotidien et dans l'ordinaire. Tout est exceptionnel qu'elles aient été à nos yeux. Ce qui a brillé, ce qui nous a suscité une grande espérance, parfois même de l'euphorie et même de la frénésie, lorsque nous les avons, finalement elles rentrent dans le quotidien et on se dit, ce n'était que ça. Alors heureusement qu'il y en a d'autres, hein. Parce que c'est ça aussi ce qui est une force de vie. Et vous savez, il y a une maxime dans notre monde qui dit ceci, tout passe, tout lasse et tout casse. Alors ça, c'est la vie. C'est la vie. Le présent est important, c'est-à-dire l'aujourd'hui. Et aujourd'hui, seule et unique chose que nous possédons vraiment. Hier, ça nous a échappé. Demain, ce n'est pas encore à nous. Mais aujourd'hui, ça nous appartient. L'instant que nous vivons, eh bien, il est à vous, il est à moi, il est à chacun, là. Ça, c'est notre temps à nous, naturellement. L'heure présente, à qui le comprend, est une grâce, car elle donne dans l'instant qui est le nôtre la possibilité, figurez-vous, et c'est tout le corps même de notre réflexion, la possibilité de rencontrer celui qui est le maître absolu du temps et des circonstances et de notre vie, et de cette rencontre peut naître une formidable expérience. Ce matin, nous sommes venus au culte et nous pouvons faire une formidable expérience avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes venus pour faire une expérience avec Dieu? Ou est-ce que c'est le quotidien, l'habitude, la routine qui nous a amenés à ce culte? Je suis venu pour recevoir le rafraîchissement de Dieu. Je suis venu pour recevoir une parole, je suis venu pour recevoir peut-être par le biais d'une prophétie ou d'une autre chose, ou d'un message qui me se donnera après le culte par un frère ou une sœur, mais je suis venu pour recevoir quelque chose. Je suis dans l'attente. Et cette attente, et qui me fait soupirer et qui me fait palpiter, c'est parce que le Seigneur est là, il est présent. Une expérience avec Dieu, parce que c'est mon présent. C'est pas hier, mes expériences d'hier c'est fini, elles me servent aujourd'hui naturellement et je ne vais pas les oublier. Demain je ne sais pas ce qu'il va m'arriver, mais aujourd'hui c'est le moment, c'est le temps et le Seigneur veut nous bénir ce matin, il veut nous bénir les uns et les autres. Et je crois qu'il veut bénir peut-être quelqu'un en particulier. Moi j'ai tout simplement à cœur de vous le dire. Voilà, je le dis et je suis soulagé de vous l'avoir dit. Mais c'est pas fini, je ne veux pas m'arrêter là. La vie au présent est synonyme pour beaucoup d'hommes, et je pense particulièrement à ceux qui sont en absence de Dieu, beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, d'inquiétudes, de tourments, voire même suivis de gémissements, parce que les réalités sont mauvaises. Les réalités de leur existence, eh bien là, ne sont pas forcément très bonnes. Alors ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Ils sont déçus. Ils sont insatisfaits parce que leur avenir n'a pas tenu ses promesses, enfin ce qu'ils pouvaient peut-être s'imaginer. Et puis il y a encore d'autres catégories d'individus qui refusent de quitter un passé sentimentalisé, vous comprenez ? Nostalgie, nostalgie. Parce qu'on a peut-être vécu des belles choses, mais les belles choses, elles sont encore à vivre aujourd'hui. Si nous ne voulons pas rester accrochés, scotchés à notre histoire, à notre passé, c'est vrai qu'il y a eu des bonnes choses dans notre passé, c'est pas vrai ? Ça a pas l'air, mais enfin bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, le passé sentimentalisé, voilà, à l'idée de marcher vers un avenir incertain, ça fait trembler des gens. Seigneur, c'était si bien avant. Comme les gens le disent populairement, mais c'était le bon temps quand j'avais 20 ans. Oui, mais quand j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 60. Et puis moi, je trouve que je suis peut-être mieux dans ma tête et dans mon cœur et dans ma peau maintenant qu'avant. Je ne sais pas comment vous partagez les choses, mais bon, voilà. C'est vrai que le temps sont mauvais. Voilà, on n'entend que des mauvaises nouvelles aujourd'hui. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est comme ça. Écoutez, la vie n'est-elle pas une aventure de chaque moment ? Parce que vivre, c'est découvrir. Et vous savez, tant qu'on gardera au fond de nous-mêmes cette petite flamme, voire même ce feu à l'intérieur de nous-mêmes, de découvrir des choses nouvelles, eh bien c'est formidable. Moi, je sais que je demande à Dieu qu'il m'amène à découvrir des choses naturellement dans la dimension spirituelle, et on les partagera ensemble lorsque je les aurai découvertes. Mais une chose qui est certaine, même dans les choses de la vie, je veux m'intéresser à tout. Je veux être toujours interpellé par toutes les beautés et la création de Dieu. Et il n'y a pas que des mauvaises dans le monde. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait vivre naturellement. Il y a un homme qui s'appelle Paul, vous le connaissez bien, c'est un personnage important de notre Bible. Alors il nous livre le secret de son contentement de vivre au présent. Et vous savez ce qu'il dit ? D'abord, il fait référence au passé. Il dit, mais j'ai appris. J'ai appris à être content. Oui. De l'état où je me trouve. Seigneur, quand j'ai une rage dedans, je veux être content, je me réjouis. Alors, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre. Et ça, c'est le secret. Je sais vivre dans l'humiliation. Mais je voudrais vous dire aussi que je sais vivre aussi dans l'abondance. Seigneur, donne-moi davantage d'abondance que d'humiliation. C'est quand même préférable. En tout et partout, poursuit Paul, il dit, mais j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Seigneur, tu sais ce qui me fait que je suis content en tout et partout, c'est parce que tu es avec moi. Et ça remplace tout ce que tu pourras me donner ou tout ce que tu pourras m'ôter. Job l'avait bien compris, ça. Le secret. Que de soucis nous nous donnons inutilement. Que de temps nous perdons dans des agitations. Ce repos fugace qui passe comme cela et qui disparaît. Vous savez, Jésus nous donne la clé dans le sermon sur la montagne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ça, c'est notre secret. Alors, souvent, on dit, quand il y a un secret, ne le dites à personne. Mais moi, je le dirai à tout le monde pour que les gens soient heureux. D'accord ? Et que vous soyez heureux. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Jésus, je l'ai expérimenté et je voudrais que vous l'expérimentiez. Maintenant, pas demain, maintenant. Alors, on l'avait vu la fois dernière, dans tout simplement l'Ecclésiaste au chapitre 3, il nous est dit qu'il y a un temps pour tout, pour toute chose sous les cieux. Et vous savez, je voudrais quand même vous le rappeler tout simplement, c'est que notre société, qui se veut organisée, super organisée, qui définit chronomètre en main la vie des individus, au niveau du travail, au niveau des loisirs, au niveau du sommeil, est frappée de cette phobie de gagner du temps. Ne prenez pas le train aujourd'hui. Mais les choses se font en leur temps. Et vous avez vu notre monde, comment il est fou. Tout est chronométré, tout est à la seconde près. Alors, gagner du temps, qu'est-ce que ça veut dire gagner du temps? La question est là. Parce qu'il y a un paradoxe dans cette affirmation. Le paradoxe est le suivant, parce que plus cette société cherche à gagner du temps, moins elle en a. Il faudrait mettre maintenant 25 ou 26 heures pour arriver à faire tout, hein. Mais ça ne changerait rien de toute manière, hein. Et ça, c'est quand même notre société. Vous savez que le temps ne se gagne pas, ou il ne se regagne pas, le temps se vit. On est d'accord ? Le temps, il se vit comme il est, tout simplement. Parce qu'il y a un temps pour tout. Et quelquefois, je le répète gravement, il y a beaucoup de gens qui disent « je tue le temps ». Mais ils ne savent pas que c'est le temps qui est en train de les tuer. Ben oui. C'est une expression, je tue le temps, ou je cours après le temps, enfin. Vous savez que nous sommes dans une société de supersonique, hein, de TGV, d'autoroute, hein. Et c'est pratique tout ça, c'est vrai, hein, mais c'est une frénésie mortelle, c'est la frénésie mortelle que nous pourrions peut-être ajouter de dire, mais c'est la frénésie de la vitesse, où tout doit aller vite, et toujours plus vite, et même la musique, et oui, et même la musique a pris un rythme endiablé. Ben oui. Vous voyez les gens maintenant, ils sont animés. On ne sait pas pourquoi ils sont animés, mais ils sont branchés, c'est pour ça. Hein, au rythme. Manger vite, et puis dormir vite. Alors ça, je ne sais pas comment on fait. Hein. Et puis également vivre vite. Mais il y a une question qui vient derrière. Pourquoi cette vitesse et pour aller où ? Ben oui, puisque quand on est arrivé, on continue à courir. Après, il y a encore un autre lapin qui est devant nous. Hein. Alors on n'en finit pas dans tout cela. Hein. Pour aller où ? L'homme moderne grille les étapes. Oui. Avec l'illusion du temps gagné. Et alors on nous dira, mais je vis intensément parce que je n'ai qu'une vie et je veux la vivre à fond. Dans le temps, on appelait ça brûler la chandelle par les deux bouts. Puis quand vous arrivez au milieu, il ne reste plus rien du tout. Hein. Et le bien-être, le confort, la vie familiale, eh bien tout peut être aussi consumé avec cette mentalité. Alors la vérité, ne serait-elle pas que l'homme, ivre de courir, parce qu'il y a une ivresse, hein, court, non pour atteindre un but, mais plutôt pour fuir une trop criante réalité, c'est-à-dire le vide de son présent. Beaucoup de gens sont obsédés par le vide de leur présent. Pourtant, il n'est pas vide leur présent, mais ils sont ivres de le remplir. Pour faire taire une autre voix, faire taire une autre pensée qui s'impose à l'homme. C'est celle dont nous avons parlé la semaine dernière et dont je vous en touchais encore deux mots aujourd'hui, c'est la pensée de l'éternité. Puisque tout est rétréci dans un départ et une arrivée, entre la naissance et puis la mort, alors on essaie de compresser, c'est de la compression au maximum, parce qu'il ne faut pas penser ce qu'il peut y avoir après. Et pourtant, Dieu nous a donné cet insigne privilège de nous offrir l'éternité. Et pas n'importe quelle éternité, pas n'importe où cette éternité, mais cette éternité avec lui, dans un monde que l'on appelle le royaume des cieux, dans sa présence glorieuse. Là où il n'y aura plus rien de semblable à cette vie qui nous détruit, à cette vie qui nous ronge, qui nous dévore. L'âge ou les âges de la vie ont tous leur raison d'être. Ouais. L'enfance, l'adolescence, la jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse, le quatrième âge. Dieu a fait les choses ainsi, nous l'avons dit. Et Dieu nous a renfermés dans ses limites. Et comprenez bien une chose, c'est que ça, on pourrait dire que c'est l'école de la vie. Du début jusqu'à la fin. Comme finalement, eh bien, dans la scolarité des hommes. Hein, on commence par la maternelle et puis on finit par les hautes écoles. Voilà. Mais il faut bien l'apprendre au départ. Il faut bien comprendre l'ABC ou le B.A.B.A. hein, de toute chose. Alors ça ne veut pas dire que quand on a les couronnes d'argent sur la tête, on sait tout. Hein. Parce que justement, à cet âge-là, la confession qui est donnée, c'est que plus on va vers l'âge avancé, moins on sait. Parce qu'à 20 ans, on dit « je sais tout » et puis à 80 ans, on dit « je ne sais rien ». Il y a des choses comme ça qui ont été chantées qui sont très très intéressantes. L'élément principal de notre récit, c'est que Dieu donne à l'homme, dans son histoire sur la terre, un temps privilégié pour le chercher Et s'il y a cette démarche de chercher, il y a nécessairement son correspondant qui est de trouver. Juste avant de rentrer dans le pays de Canaan, Dieu dira à Moïse, « Tu diras au peuple d'Israël, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force, je me laisserai trouver par vous. » Et ça, c'est merveilleux. Il y a des gens qui cherchent toute leur vie. Il y a des chercheurs d'heure, il y a des chercheurs de je ne sais quoi. L'homme est en recherche en permanence. Mais quand c'est Dieu qui nous dit « Mais cherchez-moi et vous allez me trouver immanquablement. » Si votre cœur aspire à la vérité, s'il y a l'amour de la vérité, de la justice, mais vous me trouverez parce que je serai forcément sur la route de votre vie. La Bible nous dit, elle ajoute que Dieu a mis donc dans le cœur de l'homme cette pensée de l'éternité qui est tenace. Même si quelquefois on veut lui tourner le cou à cette pensée, elle est là jusqu'au bout. Et sans conteste, le meilleur moment de l'existence où le cœur est totalement ouvert et très réceptif parce qu'il est encore innocent à l'appel de Dieu, c'est à l'aurore de la vie, l'enfance. On a eu l'occasion avec mon épouse de faire plusieurs années de colonie de vacances en tant qu'accompagnement pastoral. Et je peux vous dire que c'est délicieux les enfants. Ils sont, et vous leur prêchez Jésus, ils sont ouverts au possible. Ouais. Après ça se complique, avec notre tête, nos raisonnements, puis le monde qui nous environne. L'aurore de la vie. Et c'est pourquoi il nous est dit cette parole, jeune homme. Mais c'est aussi pour les filles. C'est pour le jeune homme et c'est pour la jeune fille que nous avons été, que nous ne sommes plus. Ça reste une permanence. Alors, jeune homme, réjouis-toi dans les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ce qui veut dire, c'est que, bien sûr, il y aura quelque chose. Bien sûr que nous avons à vivre. Et à vivre dans la grâce de Dieu, dans cette disposition, dans ces dispositions qu'il nous a offertes, qu'il nous offre encore. Vous serez d'accord avec moi, mais la jeunesse est quand même un énorme avantage. Ouais, me semble-t-il. Sur tous les autres âges de la vie. Parce que la jeunesse, d'abord, a les beautés. Oui, c'est vrai. C'est beau un bébé, hein ? C'est beau. La jeunesse, c'est la vitalité. Puis la jeunesse, c'est aussi l'espérance que vous avez tout devant vous. Hein ? Quel que soit le contenu, mais on a tout devant soi. C'est l'époque où s'élaborent les grands projets. On rêve beaucoup quand on est adolescent. Hein ? On dit les adolescents, ils sont amorphes. Mais ils rêvent, ils pensent, ils espèrent. Alors on espère qu'ils espèrent dans les bonnes choses. Mais c'est ça quand même, hein. On est passé par là, naturellement. Et je crois que la jeunesse se caractérise par la joie, quand les jeunes sont en bonne santé, naturellement, par les plaisirs. Alors je voudrais vous dire qu'il y a des plaisirs malsains, mais il y a des plaisirs sains aussi. Il faut savoir aussi en prendre en compte, les prendre en compte, parce que ce n'est pas une affaire de Dieu, c'est une affaire de choix de notre côté. Et puis, la jeunesse, c'est aussi l'insouciance, parce qu'ils n'ont pas vécu encore ce que les plus anciens ont vécu et quelquefois nous ont appris à ne pas mettre la main dans le feu. Alors ils sont insouciants et ils ont besoin aussi d'apprendre, mais elle n'est pas faite pour autant, cette jeunesse, pour être dilapidée stupidement par des fautes que l'on appelle des fautes de jeunesse qui nous suivent et qui nous suivront encore très longtemps. Et c'est là où la parole de Dieu intervient pour nous dire attention. Attention, parce que il y a le bien et le mal, il y a la vérité et puis il y a le mensonge, il y a le pur et l'impur, il y a ceci et cela. Et Dieu prend un plaisir au printemps de la vie de chaque homme. Et il veut être notre éducateur, il veut être notre accompagnateur et il veut nous dire, eh bien voilà le chemin sur lequel tu veux marcher. Et c'est vrai que pour revenir à cette jeunesse, eh bien elle évoque toujours la fraîcheur. Et il faut savoir, et Dieu le dit aussi, que la jeunesse et l'aurore ne sont que vanité, parce qu'on ne s'arrête pas là. C'est une préparation. Parce qu'un jour, il faut le savoir, l'aurore et la jeunesse ne sont que vanité, parce que cette jeunesse, elle possède un charme, il faut le dire, qui un jour disparaît à jamais. Oui. Et ceux qui sont aujourd'hui arrivés au grand âge, quand ils regardent les photos, quand ils avaient 20 ans, Il y a du changement. Ouais. Mais c'est notre vie. C'est vrai que c'est notre vie quand même. Et je voudrais vous dire, comme cela est chanté et décliné souvent sur tous les tons, eh bien, on a 20 ans qu'une fois seulement. Hein. Ouais. Après, ça se multiplie, 20 ans. C'est bien, ça se multiplie. Mais il y a le corps qui ne suit plus après. Hein. C'est pareil. Hein. Alors, la parole de Dieu déclare au verset 3, « Mais souviens-toi de ton Créateur. Pendant que tu es jeune, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu vas dire en réfléchissant à la vie passée, à ce que tu as vécu, à ce qu'il t'a été donné finalement de vivre, je n'y prends plus plaisir. » Ouais, des choses qui étaient des choses enthousiasmantes, qui étaient des choses fascinantes, enivrantes. À un moment donné, on se dit, ah, mais il y a peut-être un signe de maturité, c'est pas forcément mauvais non plus. Alors je dis que c'est le moment, c'est maintenant le moment de se souvenir de Dieu. Les jeunes, souvenez-vous que vous avez un Créateur et qu'il est là à l'instant présent. Pour ceux qui sont plus âgés et ceux qui sont très âgés, souvenez-vous de celui qui vous a donné la vie. Souvenez-vous, souviens-toi que dans tout ce que ta vie t'a apporté, et aujourd'hui, en y réfléchissant, qu'il viendra probablement, et on y pense forcément, qu'il y aura des jours plus sombres, où cette existence même, eh bien, qui était pleine hier de vitalité, qui était au printemps, en éclosion, eh bien, peut-être sera plus difficile à supporter. Ou, inexorablement, ce sera des jours de déclin. Il y avait des jours ascensionnels et puis des jours qui sont des jours de déclin. Alors, n'oublie jamais, souviens-toi, que le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous donne toujours de nous souvenir et de ne jamais oublier. Contrairement à certaines idées reçues, Dieu ne défend pas aux hommes de jouir de la vie. Ouais. Un chrétien n'est pas un rabat-joie. Un chrétien doit être un homme épanoui, de pouvoir goûter de toutes ces choses que Dieu nous a données pour l'en remercier, le bénir, le glorifier et l'adorer. J'insiste. Parce qu'il viendra peut-être des temps, si nous ne l'avons pas fait, d'autres temps viendront, inexorablement, indépendamment de notre volonté, parce que c'est la force des choses, c'est la marche de la vie, de l'existence, des temps peut-être de tristesse qui viendront frapper notre existence, des temps de morosité et qui sont contraires naturellement à cette bonne humeur. Et même au sein de la gaieté, l'important c'est encore de ne pas laisser passer l'opportunité que le Créateur donne à chacun de se souvenir de ses bienfaits et de l'en remercier. Mes frères et sœurs, je vous dirai jamais assez, tous les jours, faites dans votre culte personnel un temps où vous élevez un autel d'adoration, de louange et d'action de grâce à Dieu. Vous voulez être heureux, ça commence par là. J'essaie de toujours commencer mes prières, je ne suis pas un exemple, hein, mais de dire, Seigneur, merci pour hier, merci pour la réunion d'hier soir, merci pour la parole, merci pour tout ce que tu me donnes, de ce que tu m'offres au jour le jour. Mais Seigneur, je t'en remercie. Après, je commence à demander. Je vous demande des choses. Hein. Parce que je sais que de toute façon, tout est possible et tout est ouvert. C'est pas vrai? Je peux tout demander. Hein. Alors, faut en profiter. Parce que vous savez, il y a cette malheureuse, fréquente et coupable omission, c'est d'oublier de bénir le Seigneur. Et c'est pourtant, quand on est jeune, le moment le plus propice. Ouais. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on n'est jamais content du temps qu'on vit. Les jeunes ne sont pas heureux dans leur peau, dans leur cœur, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils ont ça, et ceci et cela, ils sont toujours en train de se regarder, et puis ça dure toute la vie. Mais vivons le moment que Dieu nous donne. Vous êtes content d'être là ce matin, ça va ? Ouais, c'est bien, c'est formidable. Mais oui, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Parce que les jours mauvais peuvent arriver ou arriveront. Ou des jours mauvais dépourvus d'agréments et pleins de privations et d'infirmités, de contraintes et d'obligations. Encore une fois de plus, je l'ajoute par la force des choses. Où tu diras, je n'y prends plus un plaisir. Parce qu'il manque des éléments. Seigneur, Tu m'offres un beau repas aujourd'hui, mais je ne peux plus manger parce que j'ai plus de dents. Parce qu'il y a ceci et cela, etc., etc. Ou des jours viendra où tu diras, je n'y prends plein plaisir. Parce que par la force de la vie qui nous emporte, eh bien là, eh bien mes forces ne sont plus les mêmes. Il arrive qu'au crépuscule, et après maintes épreuves, l'on prenne la vie en dégoût. Je ne pense pas pour un chrétien. Un chrétien qui s'accroche au Seigneur, non. Mais écoutez, quand on entend parfois des personnes sans espérance, quand on va dans les maisons de retraite, ce qui nous arrive quelquefois, et de voir des gens qui finissent leur vie dans l'amertume et dans l'aigreur, oh, je dis, Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui les a remplis dans leur vie. Ils ont été remplis d'autre chose, mais pas forcément de bonnes choses. Peut-être ont-ils souffert, et ça je veux bien croire, et Dieu a encore compassion de ces gens-là, mais la restitution, est-ce qu'ils peuvent traduire de cette fin de vie, n'est pas glorieuse, n'est pas forcément heureuse dans la vieillesse. Les plaisirs se font parfois plus rares, tandis que les souffrances sont plus nombreuses. Je voudrais vous donner du moral et du courage, hein, quand même, en vous disant ça. La vieillesse est souvent comparée à l'hiver et ses rigueurs, c'est souvent chanté ou dans les poèmes. Alors, n'attendons pas le désenchantement de la vie pour penser à Dieu. Il faut y penser avant. Les jeunes qui sont ici, pensez au Seigneur maintenant. Moi, je bénis avec mon épouse, je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a pris lorsque nous étions, elle jeune et moi jeune homme. Il m'a pris, paf, comme ça, il m'a saisi, en cours de vie, alors que j'avais rien commencé, ou presque rien. À 20 ans, vous savez, on n'a pas fait grand-chose. Moi, je dis Seigneur, merci, parce que qu'est-ce qu'aurait été ma vie autrement? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu, mais j'en ai vécu une autre. Et je peux dire, et souvent Myriam le dit, on a été heureux, et ça c'est important. On a été heureux à cause du Seigneur, grâce au Seigneur. Alors, n'attendons pas ces moments. Dieu n'appelle pas demain, il ne nous appelle pas demain, mais il nous appelle aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que nous allons donner avec le texte eh bien, une explication qui est une succession de courtes métaphores. Et vous allez comprendre tout de suite. La réponse, elle est là à travers le verset 5 et 7, où il est dit ceci. « Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, etc. etc. » Vous verrez, il y a là toutes sortes de petites métaphores qui nous sont présentées. Il s'agit de l'affaiblissement physique qui viendra où tous les membres de notre corps successivement deviennent impropres et inutiles. Hey, on ne court pas à 90 ans comme on court à 20 ans. Hein. Ça, c'est sûr. Et l'auteur, Salomon, compare le corps à une maison. Oui, à une maison qui, en vieillissant, menace ruine. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de dire ça. Mais il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est que Paul nous donne un secret aussi, un secret. C'est que quand bien même l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se rajeunit. Et croyez bien qu'on peut avoir 90 ans, je ne les ai pas encore, mais je le sens. Une chose qui est certaine, c'est que quelque part, c'est qu'on a la jeunesse de 20 ans. Et je suis encore plus jeune maintenant, ça ne se voit pas, hein, mais je suis encore plus jeune maintenant que j'en avais quand j'avais 20 ans. J'avais trop de problèmes à 20 ans. C'est pas vrai? On vous dira ça plus tard pour les jeunes. Bon, de toute façon, vous allez y passer aussi. Alors, ces petites métaphores, elles sont là, tout simplement. Il est question où le temps où les gardiens tremblent. Ce sont des images. Hein. Les gardiens, ce sont les bras et les mains qui, pendant notre jeunesse, étaient si agiles et si vigoureux et qui perdent leur assurance. Ça, c'est sûr, j'entends. C'est bien, vous me confortez. Où les hommes forts se courbent. Les hommes forts, ce sont les jambes qui soutiennent comme de robustes piliers la personne. Parce qu'à un moment donné, le corps plie. Ou celles qui meulent s'arrêtent. Les meunières, vous savez ce que c'est que les meunières? Ce sont les dents. Les dents qui sont si utiles et qui faisaient l'éclat du visage d'un jeune homme ou d'une jeune fille dans sa beauté. Remarquez, on vit une société où maintenant on peut tout changer. Les pièces détachées sont là à notre disposition. Hein, et ça arrange quand même. Enfin, dans l'aspect extérieur, hein, naturellement. Où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ce sont les yeux qui se voilent progressivement. Là encore, Mais moi, je ne l'aimais pas. Les paupières et les cils, comparables à des fenêtres qui se ferment. Ouais. Ou les deux battants de la porte, ce sont les lèvres des vieillards qui éprouvent plus autant le besoin de parler. Ou s'affaiblissent toutes les filles du chant, les cordes vocales, les plus grands et les plus beaux chanteurs ou chanteuses d'opéra. Eh bien, à un moment donné, quand ils arrivent à la grande vieillesse, c'est un petit peu plus... c'est beau, mais c'est un peu plus avec des trémolos, vous savez. Hein? Où l'on redoute ce qui est élevé, qui nous dit et qui nous parle que les personnes âgées s'essoufflent, même dans les petites montées. Eh oui. Où l'on a des terreurs en chemin, où on ne va plus très loin, et on n'y va qu'à petits pas, de peur de tomber. Où l'amandier fleurit, les cheveux blancs, la couronne d'argent des vieillards, qui est aussi une couronne de sagesse, souvent. Parce que cette couronne, elle ressemble à la neige. Où la sauterelle devient pesante, l'impuissance à se mouvoir, ou à agir, ou à réagir dans le temps. Où la câpre est sans effet. La câpre, c'est un petit condiment qui stimule l'appétit et qui excite les sens et le goût. On ne mange plus, on grignote. Moi, j'aime bien. Il y a des belles chansons, hein, qui parlent justement des vieux. Enfin, c'est ce que l'on dit, hein. Ouais. Relisez. Vous savez, les gens qui ont écrit cela, hein, ils ont écrit, peut-être pas sous l'inspiration du Seigneur, mais en tous les cas, ils ont bien dit ce qu'il fallait dire. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, nous dit le texte, qui est l'aboutissement inexorable de toute vie humaine, c'est-à-dire partir. Si vous aimez mieux, je veux dire, mourir. Parce que, mis à part ceux qui verront le retour de Jésus-Christ, qui seront enlevés dans le ciel, eh bien, depuis que le monde est monde, nous passons, comme dit David, par le chemin de toute la terre. Et le chemin de toute la terre, eh bien, c'est tout simplement, là, mourir. Et nul n'y échappe, parce que c'est l'égalité pour tous. Il n'y a rien à faire. Avant que le cordon d'argent se détache, et que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la route ne se casse sur la citerne, c'est ce qu'on a appelé le fil d'argent. C'est une belle image du fil de la vie qui est un jour coupé. Mais je dis que les résultats n'est pas la même pour celui qui espère, qui a foi en Dieu, et celui qui n'a aucun espoir d'aboutissement. Il y en a un qui part rempli du Seigneur, rempli de cette espérance du ciel, et avec cette joie qui est celle du Saint-Esprit, et puis ceux qui redoutent. C'est une véritable terreur. C'est un véritable effroi d'avoir passé toute cette vie, d'avoir peut-être d'autant plus lorsqu'on a été un homme important, lorsqu'on a eu le pouvoir, lorsqu'on a eu la gloire, lorsqu'on a eu, eh bien là, le monde à ses pieds, et de devoir tout quitter, c'est quand même triste. Hein. Mais un chrétien, mais nous, ce n'est pas ici, c'est là-haut. Notre vraie maison, notre vraie demeure, elle n'est pas ici. Vous êtes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce que... Les vrais trésors, ce sont ceux qui sont de l'autre côté. Je voudrais vous donner, mes frères et sœurs, de vibrer à ce qui nous attend de l'autre côté. Vous voulez une belle maison? Vous aurez un palais. Enfin, je vous dis ça. Mais je le sais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas vrai, nous dit Jésus, je vous l'aurais dit. Donc, s'il ne nous a pas dit que ce n'était pas vrai, c'est qu'il nous dit que c'est vrai. Et que nous, nous avons à le croire. N'est-ce pas? C'est ça ce qui est important. Alors, le fil d'argent. Il nous est parlé d'un vase d'or également, qui représente la vie elle-même. Et de quoi de plus précieux que la vie? Que faisons-nous de notre vie? Comment utilisons-nous notre vie? À quel appel le Seigneur nous destine? Il nous a appelés à être sauvés, ça c'est sûr. Mais après, cette considération du salut, mais Dieu nous demande et il nous donne de remplir quelque chose, de faire quelque chose qui glorifiera le Seigneur et qui sera récompensé de l'autre côté. Ce n'est pas par mérite. C'est tout simplement parce que nous l'aurons aimé plus que tout et nous aurons donné la priorité à la fonction ou à la tâche ou à la position qu'il nous aura donnée. On est d'accord pour ça. Et ça, il faut le comprendre. Le seau qui monte et qui descend dans le puits, dont il nous est parlé, illustre le mouvement incessant de la respiration. Vous respirez ? Vous me le dites, hein, si vous arrêtez, parce que... Oui ? Dont le principe même vient de Dieu. Et c'est à l'origine de la création de l'homme. Il nous est dit que l'homme forma de la poussière, enfin, Dieu forma de la poussière un homme, et il souffla, eh bien, un souffle, l'âme. Voilà. Et ça vient de Dieu, et ça retournera à Dieu. Mais nous n'avons aucune crainte de ce que notre souffle retourne à Dieu. Il va tout simplement à sa destination initiale. C'est-à-dire qu'il a fait le tour, l'histoire de l'école de la vie, et ensuite on retourne de l'autre côté. Est-ce que ça vous convient ? Ça vous va ? Comme programme ? Non, mais c'est extraordinaire, c'est formidable. Seigneur, je retourne à toi. Enfin, laisse-moi encore quelques jours. Mais c'est vrai, on vient du Seigneur, on retourne vers le Seigneur. Quelle qu'était notre existence, elle n'est pas facile, mais de l'autre côté, ça sera la félicité, la gloire et le bonheur éternel. Et ça, c'est beau. C'est ce qui devrait faire éclater les enfants de Dieu, mais d'allégresse. Oui. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné, le cycle de la vie est accompli. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Seigneur. Mais moi, je veux me prêter le plus possible pour être flexible, pour être souple, pour être obéissant. Seigneur, tu veux que j'aille ici, je vais ici. Si tu veux que j'aille là, je vais aller là. Mais ce qui compte, c'est que je reste bien au creux de ta main pour que tu me conduises au bon endroit. Ça, c'est l'important. On sait très bien que la mort représente toujours la séparation du corps et de l'esprit. Lequel des deux est le plus important ? Si on prend la considération de notre monde, avec les regards que nous portons sur notre monde, un monde matérialisme, un monde athée, un monde de rejet de Dieu, alors lequel qui est le plus important ? Pour nous, ce n'est pas le corps. Même si nous devons l'entretenir, même si nous devons le soigner, même si nous devons prendre soin de ce corps, comme il est normal de le faire pour l'honneur et la gloire de Dieu. Mais le plus important pour nous, et si nous sommes là ce matin, eh bien c'est parce que justement nous donnons à l'âme, à la dimension de l'âme et à l'esprit, le plus d'importance. Autrement, j'aurais été juste à côté de chez moi, il y a des gin tonic, enfin je ne sais pas quoi là. J'ai même pas besoin de prendre la voiture, c'est juste en face de chez moi. Le corps, oui, je reviendrai avec des... comme ça, ce serait impressionnant. Hein. Alors, lequel et auquel des deux nous prenons garde ? Parce que regardez ce qu'il nous est dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Apparent, c'est vrai, le corps, mais il est temporel. Il est passager et il disparaîtra, parce qu'on sait très bien que quelque temps après, il ne restera rien du tout, rien. Mais l'esprit est invisible, mais il est éternel. Alors, souviens-toi de ton Créateur pendant qu'il est temps, avec une certitude qui nous est donnée dans Hébreux au chapitre 9, quand il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pas question de la réincarnation chez les chrétiens, hein, d'accord ? Parce que moi, ça ne me dit rien de revenir chat ou souris, parce qu'on va faire la course. Hein. Ah non ! Après quoi vient le jugement ? Mais pour les enfants de Dieu, il n'y a plus de jugement. Puisque celui, ah oui, qui appartient à Jésus, il n'y a plus de condamnation, alors nous sommes à Jésus-Christ. Et moi, je ne vois pas Dieu comme un juge, moi je le vois comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Je finis, Jésus-Christ est venu sauver les hommes qui croient en lui en passant par l'œuvre de la repentance, par la conversion et de nouvelles naissances pour nous préparer finalement eh bien, à la dimension céleste. Et tout ça, je le saisis par la foi et je me dis, mais souviens-toi aussi de cette parole. Toi qui es là au milieu de nous ce matin, souviens-toi de cette parole. Elle est très simple, elle est très accessible, compréhensible, et elle s'adresse à toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. D'accord ? Et si nous l'invoquons, c'est que nous croyons. Autrement, on ne l'invoquerait pas. Mais si nous l'invoquons, invoque-moi et je te répondrai. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, parce que nous mettons notre foi en avant à ce moment-là. C'est si simple. C'est si simple quand c'est encore possible. Mais n'attends pas. N'attends pas le jour où, sur le lit de mort, ou dans les derniers moments où on aura perdu peut-être la conscience des choses, ou que nous ne serons même plus capables de prononcer un mot. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est ça. N'attends pas. Afin que nos excuses à l'appel de Dieu, qui se résument par un plus tard, ne se transforment en un trop tard. Dieu nous dit une dernière fois, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, maintenant, vous voulez que je recommence cet après-midi? Je peux, hein. J'ai encore jusqu'à minuit pour vous dire aujourd'hui. Demain sera demain. Mais je voudrais quand même vous le dire qu'une fois. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, est-ce que vous entendez la voix du Seigneur? Ouais. Je sais que chacun d'entre nous, nous l'avons entendu, nous l'entendons. Même si c'est avec des paroles faibles et, bon, voilà, avec un communicateur humain hein, que je suis, bon, peu importe. C'est pas ça ce qui est important, c'est le message qui est important. Si vous entendez sa voix, alors, je ne veux pas endurcir ma voix, au contraire, je veux dire, mais Seigneur, je t'ouvre ma vie, je te donne mon cœur complètement, le plus de place possible. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et qui peut dire ce que sera demain? Seule l'heure présente nous appartient. Et je terminerai sur cette belle parole de Zachée. Vous connaissez le petit monsieur qui monte dans un arbre? Il s'appelle Zachée, il habite la ville de Jéricho. Il se cache, mais on ne peut rester caché à celui qui nous appelle parce qu'il nous connaît. Et vous savez ce qu'il dit? Ce que Jésus dit à Zachée, il lui dit d'abord, hâte-toi. Hâte-toi, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, que je demeure aujourd'hui dans ton corps pour faire de ton corps le temple du Saint-Esprit. Je veux que ton cœur, ton âme et ton esprit soient mon palais. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce et que véritablement nous nous réjouissons dans le Seigneur qui nous parle et qui nous sauve. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que, personnellement, moi, je te bénis de ce que tu m'as pris, de ce que tu m'as appelé, de ce que j'ai reçu ton appel, Seigneur, pour être sauvé alors que j'étais encore tout jeune. Et je te bénis pour cela, Seigneur, parce que, aujourd'hui, après les années, après voire même les décennies, Seigneur, je peux dire et je peux le confesser publiquement que je n'ai jamais regretté, en effet, de t'avoir suivi. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, il y a eu des pleurs, des chagrins, il y a eu toutes sortes de choses. Mais j'ai compris, Seigneur, que tout cela, Seigneur, en effet, lorsque c'est déposé à tes pieds, tu es capable de changer, eh bien, la tristesse en joie. Tu es capable de changer le mal en bien. Tu es capable de changer nos angoisses, notre désespoir, notre désarroi, en une formidable espérance. Merci, Seigneur, parce que tu as mis dans mon cœur cette parole, qu'il y a en réalité trois choses qui demeurent. Eh bien, l'amour, la foi et l'espérance. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour mes amis qui écoutent ta parole. Au nom de Jésus, je te loue, Seigneur, de ce que tu appelles encore aujourd'hui et que des décisions vont être prises, non pas à appartenir à une église ou à un mouvement quelconque, mais vraiment à venir à Jésus et de choisir, de se déterminer pour que Jésus devienne, eh bien, non seulement mon Créateur, ce qu'il est déjà, mais le Sauveur de mon âme et le Seigneur de toute ma vie, entièrement, pour le temps et pour l'éternité. Merci Jésus. Amen.